Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio de la Paix pour ce nouveau numéro de Regard croisé sur l'actualité, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Une semaine d'actualité marquée notamment par les déclarations de Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé sur la commission électorale indépendante, la CEI, ainsi que notre système électoral. Nos invités se prononceront également sur le débat relatif à la limitation de l'âge des candidats à la présidentielle remise en selle par Jean-Louis Billon du PDCI. Nous allons aussi évoquer les mesures du gouvernement en vue de faire face aux accidents de la route et à l'incivisme routier. Enfin, nous reviendrons sur le décès de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Paul Akoto-Yao, mais aussi sur ses morts suspectes par pendaison et par noyade survenues sur le campus de Cocody. Pour donc croquer toute cette actualité, nous recevons comme invité M. Joseph Odjetia-Koré, cadre du RHDP, et à ses côtés, M. Sié Koulibaly, cadre de GPS, Génération et Peuple Solidaire. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. La CEI, la Commission électorale indépendante et plus globalement le système électoral ivoirien ont été passés au scanner par deux personnalités politiques, à savoir Simone Eyive Gbagbo et Charles Blé Goudé. La présidente du mouvement des générations capables propose une nouvelle loi concernant cette commission. Je vous invite à suivre la batterie de propositions qu'elle fait concernant notre système pour les élections.
Le système électoral actuel ne peut pas garantir la paix sociale. Il est une source majeure des conflits électoraux qui occasionnent des crises graves depuis 2010. Il faut donc une réforme profonde de ce système fondée sur la rédaction d'une nouvelle loi sur la commission électorale indépendante. Elle consistera en l'adoption d'une nouvelle loi sur la CEI, en la mise en place d'une nouvelle CEI véritablement indépendante. Les acteurs de cette CEI auront un statut particulier avec des salaires et des moyens conséquents, toutes choses qui garantissent leur indépendance vis-à-vis des partis et des autorités politiques et administratives. Ces acteurs de la CEI seront recrutés par appel d'offres et en dehors des partis et mouvements politiques. Ils ne seront pas des représentants ni du pouvoir ni de l'opposition. Aucun parti politique ne devra fournir du personnel pour la direction de la CEI. Troisième chose, la révision du code électoral. Quatrième chose, la révision après un audit de la liste électorale. Cinquième chose, l'adoption d'un nouveau découpage électoral juste et équitable à partir de critères précis arrêtés de façon consensuelle, notamment celui du nombre d'habitants par circonscription.
Quant à Charles Blé Goudé, il a évoqué une CEI obsolète qui mérite d'être réformée. C'était lors de sa première conférence de presse depuis son retour en Côte d'Ivoire. Je vous propose aussi de l'écouter.
Il faut donner à la Côte d'Ivoire des institutions fortes, pas des institutions qui fonctionnent comme une météo, selon celui qui est au pouvoir. La CEI qui est là, mais ça, c'est un organe de crise. D'abord, organe de crise à deux niveaux. La CEI dans sa forme actuelle, comme Makoussi, dans la crise, pour contenter les différents acteurs en son temps, parce que c'est encore adapté. Deuxièmement, vous avez au sein de la commission électorale indépendante tous ceux qui compétissent. La compétition ne va jamais prendre fin. Chaque parti politique envoie son représentant au sein de la commission qui est censée les départager. Chaque représentant est en mission pour son mandat. On demande à chaque parti politique qui veut être président d'envoyer son représentant. Chacun envoie son représentant. Et puis, ils vont élire entre eux celui qui va être président de la CEI. Pourquoi ? Les autres vont coaliser, ils vont mettre à la tête celui qui va les faire gagner. Pas pour faire gagner la Côte d'Ivoire, pour les faire gagner. Pourquoi ? Et je suis surpris. Quelqu'un entend le micro aux opposants. Ah non, moi aussi, je veux une place. On ne cherche pas une place. Il faut changer cette CEI. Elle ne peut pas fonctionner. Pourquoi qu'on parle d'une commission électorale qui est un organe qui engage la vie des Ivoiriens ? Parce qu'en Côte d'Ivoire, les élections tuent plus que le coronavirus. Il faut revoir les choses en prenant du recul. En ne mettant pas nos ambitions au centre, on peut conquérir le pouvoir autrement par rapport à notre offre politique. On peut conserver le pouvoir autrement par rapport à ce que nous réalisons. Ce n'est pas la CEI qui donne le pouvoir. Il faut revoir la CEI pour pouvoir donner aux Ivoiriens leur choix dans les urnes.
Alors, messieurs, que pensez-vous de ces deux diagnostics doublés de propositions faites par ces deux personnalités politiques, bien qu'émanant de l'opposition, sur notre système électoral? Odier Tiakoré.
Oui, sur les propositions faites par Mme Gbagbo et ensuite par Bleu Goudé, d'abord, c'est surprendre de voir que ces deux personnalités qui ont dirigé le pays à des degrés divers et donc à des positions diverses pendant près de 10 ans se retrouvent aujourd'hui à faire des propositions alors qu'elles auraient bien pu faire ces propositions-là ou alors les mettre en œuvre quand elles étaient au pouvoir. Donc vraiment, et c'est le premier constat que apparemment quand on est dans le pouvoir, on devient sourd et aveugle. Et quand on en sort, on voit mieux ce qu'il fallait faire, donc les tares. Mais au niveau du RHDP, nous n'avons pas attendu que ces propositions-là soient faites. Parce que pour nous, c'est une question de principe et ça a été à la base du combat du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que nous avons lutté, par exemple, pour le vote des jeunes à 18 ans. Nous avons lutté pour que, quand on est majeur, on puisse être candidat, quelles que soient les élections, et ainsi de suite. Et aujourd'hui même, pour parler de tout ce qui est en train d'être dit, la CEI, et là je suis d'accord avec Bleu Goudé, ce n'est pas la CEI qu'on gagne les élections. Mais en même temps, quand on crée des institutions, on les crée pour les hommes. Il y a des pays où il n'y a pas d'institution à part qui gère les élections. Au Canada, il y en a. En France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et ce n'est pas contesté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une seule donnée qui est fondamentale dans un pays, c'est celle des valeurs. Quand ces valeurs-là sont inscrites dans le gène du personnel politique et même de tous les citoyens de ce pays, quel que soit celui que vous mettez à une fonction même électorale, vous êtes sûr que même si c'est un militant d'un parti au pouvoir, bien de l'opposition, il pensera d'abord et avant tout à son pays. Il pensera d'abord et avant tout à la question d'équité, d'honnêteté, aux questions d'efficacité. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes dans le cadre de la Côte d'Ivoire, puisse gagner à travers des élections, par exemple, propres et tout ça. Et la question qui se pose au niveau de la CEI actuelle, il y a deux questions qui ont été résolues. La première question qui a été résolue, c'était celle, effectivement, de la neutralité de celui qui devait diriger la structure. C'est le cas aujourd'hui où le président de la République a décidé que son représentant et le représentant du ministère de l'Intérieur ne pourraient pas briguer la tête de l'institution. Et le président actuel est un représentant de la magistrature. Bon, alors donc, quand on parle d'enlever les représentants des partis politiques, le débat n'est même pas à ce niveau. Le débat, c'est que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous puissions sensibiliser nos propres militants et nous-mêmes à aimer notre pays et à faire les choses sans parti pris. Et ça a été réglé puisque aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes membre de la commission centrale de la CEI, vous prêtez serment et vous n'appartenez plus à votre parti politique. C'est-à-dire qu'un parti politique ne peut pas vous donner un ordre de voter ou bien d'aller dans tel sens à l'intérieur de la CEI. Ce qui se passe à l'intérieur de la CEI, c'est les décisions qui sont prises dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce débat, ce n'est plus sur la question de la crédibilité de la CEI, parce que ce problème a été résolu.
Monsieur Koulibaly-Sier.
Merci. Je note que la question fondamentale qui ressort des interventions de Mme Simone Gbagbo et M. Bleu Goudé-Charles, c'est la question d'impartialité et de l'indépendance de la commission électorale. La CEI, ça voudrait dire qu'on a encore une partie des Ivoiriens qui pensent jusqu'à aujourd'hui que la commission électorale indépendante n'est pas indépendante. Et je suis de ceux qui pensent qu'une commission électorale ne fait pas gagner une élection, mais en même temps nous disons attention, c'est l'organe qui régule les élections. Donc s'il n'y a pas une confiance, évidemment les réformes devront se faire avec des propositions idoines. Et nous devons être dans une vision participative pour sortir la Côte d'Ivoire du gouffre. Nous pensons que toutes les propositions, dans un premier temps, sont les bienvenues. Et je ne pense pas que les propositions faites par Bleu Goudé et Mme Simone Gbagbo ne sont pas des propositions à prendre en compte. Et je pense qu'à ce niveau, l'État de Côte d'Ivoire, ou ceux qui régulent cette question, doivent en tenir compte. Parce que quand même, on a vu la dernière réforme à l'Assemblée, le PDCI s'est abstenu, le FPI,
non, c'est le PPAC
s'est abstenu, le PDCI
a voté contre.
Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais, et pourtant, que ce soit le PDCI ou le PPSCI, ils ont voté tous le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il y a eu l'unanimité. Donc je me pose la question souvent, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais en même temps, nous savons que toutes les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire naissent d'élections mal organisées. Et généralement, la commission électorale est pointée du doigt. Vous voyez, nous avons eu un exemple ahurissant en 2010 où, en pleine proclamation des résultats, un citoyen ivoirien appartenant à un parti politique s'est levé pour s'opposer. Mais moi, mon impression, on doit faire la politique autrement. Mais la faire autrement voudrait dire que faut pas que la commission ressemble à une pizza qu'on a coupée en plusieurs tranches. Ça, c'est mon avis. Où il y a le représentant du chef de l'État qui est un potentiel candidat. Il y a le représentant du ministère de l'Intérieur, il y a le représentant de chaque parti politique qui sont des potentiels candidats. Et quand on se retrouve à se battre pour qu'on ait un vice-président et que cela se passe devant les Ivoiriens à l'Assemblée, l'impression qu'on a, c'est que c'est cette pizza qu'on veut se partager. Et quand on nous ramène à de tels débats et qu'on est à l'approche d'élections, nous devons avoir peur pour des lendemains qui peut-être sont incertains parce que simplement nous sommes convaincus qu'il y a des réformes à faire. Et nous nous disons qu'effectivement, il faut que pour une fois, il y ait une commission indépendante. Parce que le ministère de l'Intérieur qui auparavant organisait les élections a été substitué par la CEI. Et on constate que c'est quand on n'est pas au pouvoir, généralement, on apporte les réformes. Peut-être que c'est ce que je peux reprocher à la proposition que font nos amis politiques. Mais asseyons-nous et révisitons effectivement les tests parce qu'il y a problème. Moi, je vais loin pour dire que pour même aller à des élections, il faut même auditer la liste électorale. On va me dire, est-ce que ça fait partie du code des réformes? C'est un ensemble d'éléments qui doivent rassurer. Parce que pour nous, les élections doivent être une fête. On va à des élections pour compétir parce que chacun pense qu'il veut donner ce qu'il a de plus pour que le pays puisse se relever. Mais on ne va pas à des élections pour mettre le pays en retard. D'où l'organe qui est chargé des élections, à mon avis, ne doit pas ressembler à cette pizza que les politiciens, en réalité, se partagent.
Alors, je voudrais juste quand même faire remarquer qu'en novembre 2022, à l'Assemblée nationale, il y a des aménagements qui ont été faits au niveau de la CEI, des tests de la CEI, à la demande de l'opposition, réunis dans le cadre du dialogue qui s'est fait avec le parti au pouvoir et le gouvernement. Ce qui veut donc dire que la porte n'a jamais été fermée pour quelques réformes que ce soit et d'amélioration et de faire en sorte que tout ce qui touche les élections se passe dans une transparence la plus grande possible. Mais je pense quand même aussi que chaque fois qu'un opposant fait des propositions, on ne va pas dire que la liste n'est pas fiable, on ne va pas dire qu'il y a ceci qui n'est pas fiable, parce qu'en réalité, ces camarades aujourd'hui qui parlent, il y a à peine quelques années, ils étaient au parti au pouvoir. Pendant 10 ans, ils ont géré ce pays. Et c'est avec cette liste-là que nous sommes allés aux élections. La liste n'a pas changé fondamentalement, à part les morts, à part les nouveaux majeurs. La liste n'a pas changé fondamentalement. Donc, à chaque fois que quelqu'un veut jouer un rôle, attirer l'attention sur lui, il crie au loup, il crie au feu, c'est bien beau. Mais encore que si, par exemple, on doit auditer la liste électorale, il faut qu'il y ait des raisons valables. Est-ce qu'on a apporté des éléments qui prouvent que cette liste n'est pas fiable? Non, rien. Alors, donc, le débat ou alors la discussion, le dialogue avec l'opposition doit pouvoir continuer, mais dans un cadre serein où à chaque fois, on ne vient pas faire des conférences de presse pour dénoncer et crier au loup alors qu'il n'y a pas le feu.
Alors, moi, j'aimerais vous poser la question sur l'indépendance de la CEI telle que chaque acteur politique la réclame. Est-ce que vous êtes favorable à une CEI sans parti politique, favorable également donc au retour de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur? Koulibaly Sié?
Mon avis est qu'il faut même travailler d'abord sur des valeurs. Les hommes qui animent ces structures.
Oui, mais la confiance n'existe pas entre les hommes politiques. Ça se voit à chaque élection. La CEI est remise sur la table pour débattre de son indépendance ou de sa crédibilité.
Pour moi, la première des choses, c'est de travailler sur des valeurs. Et les valeurs, ce sont les hommes qui animent. Quand on prête serment, même si on a été envoyé par le président de la République ou le ministère de l'Intérieur, soi-même, on doit s'appliquer à faire correctement le travail. Mon impression, c'est que oui, l'actuelle commission électorale indépendante n'est pas bonne au regard de sa composition, je l'ai dit, comme elle était par le passé. Pour moi, il faut une structure toute indépendante et gérée par des techniciens du domaine sans coloration politique. Il faut au moins essayer ce médicament, une CEI, sans qu'on ait l'impression qu'il y a un partage encore du gâteau là-bas. Pour moi, il faut vraiment une nouvelle commission électorale indépendante.
Sans acteurs politiques.
Sans acteurs politiques. Et même s'ils sont là, il faut qu'ils aient un rôle d'observateur.
Odie Tchakouré ?
Moi, je pense que, en attendant que véritablement les valeurs dont nous parlons tout à l'heure puissent se mettre en place, ou alors prennent dans toute la société ivoirienne, la forme actuelle de la CEI me paraît bonne. Moi, en tout cas, je n'ai pas entendu dire que la CEI n'est pas impartiale, surtout celle que nous voyons aujourd'hui. Elle a toujours œuvré dans l'impartialité, en respectant les tests, en citant les tests. Et donc, nous allons dans le bon sens. Peut-être que l'idée, c'est de continuer à prendre, par exemple, des hommes de loi, mais dont la probité morale n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Et je crois que c'est seulement cette voie de choisir des hommes de qualité morale, des hommes de valeur, qui ont plus l'intérêt à sauvegarder leur réputation plutôt qu'à faire plaisir donc à des appareils politiques. À partir de ce moment-là, si ces personnes-là sont choisies pour diriger la structure, il y a très peu de chances que nous ayons des problèmes en Côte d'Ivoire.
Est-ce à dire que ceux qui sont là actuellement ne remplissent pas ces critères? Quand j'écoute M. Odieu, c'est la question fondamentale que je me pose. Donc c'est pour cela que je veux qu'ils soient d'accord avec nous qu'il y a une réforme à faire et que la CEI actuelle n'est pas bonne. Parce qu'on n'a pas encore les hommes de foi, les hommes de valeur pour la diriger. Et pourtant, ils existent en Côte d'Ivoire.
Oui, mais M. Kouibier, pour moi, remplit bien ses conditions. M. Kouibier était magistrat de ce pays, de très haut niveau.
Oui.
Et depuis qu'il a commencé à diriger cette institution, il a placé l'institution à un niveau tel que personne ne peut le soupçonner de favoritisme.
Ah, ça, c'est une vision RHDP.
Ah non.
Oui, sinon, quand vous l'opposition en train de...
Nous sommes obligés, en Côte d'Ivoire...
Sous vos yeux, en train de décrier une machine qu'il tient.
Non.
Avec ses faiblesses.
Ce n'est pas le...
Et vous-même, vous nous dites qu'il nous faut des hommes de valeur pendant qu'il est là.
Oui, mais...
Ça veut dire que vous l'avez exclu de ces hommes de valeur.
Non,
donc, venez nous dire qu'il est... Cela me pose un problème.
Vous n'avez pas écouté jusqu'au bout. Vous avez écouté une partie de ce que je disais. J'ai dit que cette personne-là que je viens de présenter, dont je viens de définir les traits, nous l'avons à la tête de la CEI. Et je vois, à travers ce que M. Kouibier est en train de faire, que tout ce que l'opposition décrit, justement, est corrigé à travers le parcours de ce monsieur, les actes qu'il pose à la tête de la CEI. Et je voudrais, moi, le féliciter et l'encourager à continuer de travailler pour le bien-être de la Côte d'Ivoire.
Je pense que c'est un débat, si on devait le mener, qui va nous prendre toute l'émission. Je comprends bien que l'opposition, en tout cas, souhaite une CEI réformée quand le RHDP estime que cette CEI fait bien son travail. Le débat sur la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle a été remis au goût du jour par Jean-Louis Billon du PDCI, qui réitère ainsi sa volonté de voir la loi modifiée dans ce sens. Assalé Thiemoko, député et initiateur d'une proposition de loi en faveur de la limitation, appelle Jean-Louis Billon à aller plus loin au-delà de ce qu'il qualifie de simple déclaration. Je vous propose donc d'écouter Assalé Thiemoko.
Ce n'est pas la première fois que M. Jean-Louis Billon se prononce en faveur de la limitation de l'âge pour la candidature à la présidentielle. Déjà en 2022, après que j'ai déposé la proposition de loi sur le bureau du Parlement au cours d'une émission de télévision, il avait déjà marqué son avis favorable pour l'adoption de cette proposition de loi. Cela dit, ça reste toujours une déclaration qu'en tant qu'initiateur de cette proposition de loi qui est sur le bureau du Parlement depuis le 4 avril 2022, je suis heureux d'entendre ça, mais il faut peut-être aller plus loin. M. Billon est membre de la conférence des présidents, ce sont eux qui discutent du calendrier des textes à étudier au cours d'une session. Ça fait maintenant bientôt un an que le texte est déposé sur le bureau du Parlement. Jusqu'à présent, il n'a pas été programmé pour examen en commission. Donc, je souhaite que M. Billon aille au-delà de la déclaration et qu'au niveau du Parlement, il se mette dans la bataille pour que le texte soit programmé et qu'ensemble, on en débatte au niveau du Parlement.
Alors, sur la question, voici à présent la réaction d'un autre député, par ailleurs vice-président du PPACI. Pour Jean-Gervais Tchéidé, il faut éviter de donner le sentiment de vouloir cibler certaines personnalités politiques ou de se substituer au peuple ivoirien. Suivons ensemble ses arguments.
Je ne vais pas réagir à la position de M. Jean-Louis Billon. Je vais plutôt réagir à l'idée selon laquelle il faut limiter l'âge de candidater pour le poste de président de la République en Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'âge limite avait été fixé par l'ancienne constitution, mais dans le contexte actuel, vu que ça a été déplafonné déjà par le régime RHDP, le replafonner aujourd'hui prêterait à confusion et donnerait à penser qu'il y a une intention de cibler des personnes bien précises. Et par ailleurs, il est bon de laisser la population elle-même apprécier la situation et décider en toute souveraineté. Si tant est que nous pensons que le peuple de Côte d'Ivoire est suffisamment mature pour faire son opinion et choisir en toute connaissance de cause.
Koulibaly Sié, la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle est un débat qui risque de s'amplifier à l'approche de la présidentielle de 2025. Jean-Louis Billon, d'ailleurs, ne rate aucune occasion pour plaider en faveur d'un âge plafond. Quelle est votre opinion sur ce débat?
C'est un débat qui a cours dans toutes les nations démocratiques au monde. Je constate que le président américain a plus de 110 ans. Je donne cette référence. Mais je vais dire que pour moi, la question de la limitation d'âge des candidats convoque celle de la limitation du nombre de mandats. Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel. C'est-à-dire qu'on peut venir à 70 ans, faire deux mandats et puis partir, comme on peut rester à 90 ans en conservant le mandat. Je vais dire que quoi? Sur cette question à double variable, il faut que nos constitutions soient claires et rigoureuses. Si, ensemble, les Ivoiriens, afin d'éviter les dérives, nous optons pour une constitution où on dit on doit aller à 90 ans et que c'est voté par le peuple, on s'aligne. Si on a une constitution, on dit qu'il faut que ce soit 45 ans, on s'aligne. Mais là, il faut respecter les tests. Mais je dis, elle convoque de façon insidieuse une deuxième question qui est celle de la limitation des mandats. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit insister. C'est pour cela que moi, en tant que jeune Africain, j'ai participé à l'époque au Ghana, quand j'étais député suppléant, à une conférence de Kofi Annan qui disait aux jeunes Africains qu'il faut faire attention que certainement à plus de 70 ans, il ne faut pas qu'on donne nos voix à des personnes âgées. Surtout quand il s'agit de la présidentielle. Il a peut-être tort, il a peut-être raison, c'est quand même Kofi Annan. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'âge même peut être un obstacle quand on doit gérer un pays. Mais je dis, soyons pragmatiques dans le cas de la Côte d'Ivoire. Vous avez trois grands qui veulent remplir en 2025. Mais soyons courageux, surtout la nouvelle génération, et puis leur dire, qu'est-ce que ça fait si son Excellence Alassane Ouattara n'est pas candidat? Qu'est-ce que ça fait si Gbagbo n'est pas candidat? Qu'est-ce que ça fait si Bédié n'est pas candidat? Et que dans leur rang, et dans le rang de la Côte d'Ivoire, qu'on laisse compétir la nouvelle génération afin qu'il soit cet arbre qui va permettre ensemble de contrôler cette nouvelle génération de par leur expérience. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Moi, c'est la question que je me pose en tant que jeune. Et je dis la nouvelle génération, on ne va pas les contraindre parce que moi, je ne suis pas pour la séparation des générations. Nous avons besoin de Gbagbo, nous avons besoin de Bédié, nous avons besoin de Ouattara. Ils ont une expérience de vie, ils ont une expérience politique qu'on peut capitaliser. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'ils s'éternisent au pouvoir. Ils ont déjà géré la Côte d'Ivoire. C'est des médicaments qu'on a essayés. Passons à un autre médicament. Et je crois fermement que si les trois se retrouvent, ils peuvent, en 2025, donner la main à la nouvelle génération. Moi, c'est mon souhait.
Oui, mais la nouvelle génération, il faut pousser dans ce sens. On a l'impression que vous adoubez encore ces trois grands, comme on les appelle. On ne vous sent pas pousser.
Quand je parle en tant que génération et peuple solidaire, nous, on n'adoube pas quelqu'un. On assume nos responsabilités et puis on avance. Donc, c'est pour cela que je dis, ceux qui adoublent, on les connaît. Mais je dis, il ne faut pas brûler les anciens.
D'accord.
Il faut éviter l'amalgame à ces niveaux.
D'accord.
On peut être à 70 ans, être performant que quelqu'un de 45 ans.
Très bien.
L'essentiel, c'est dans nos tests et nos lois.
Très bien. Joseph Odier-Takoré, votre avis sur le débat remis sur la table par Jean-Louis Bion sur la limitation de l'âge des candidats à la présidentielle.
Oui, je pense que M. Bion veut régler les problèmes du PDCI en utilisant les institutions de la République. S'il a des difficultés pour se faire choisir comme le candidat du PDCI, alors donc il pense qu'en faisant voter une loi en 2025, ça pourra empêcher M. Bidier d'être candidat. Et
oui, mais ce n'est pas parce que si M. Bidier n'est pas candidat que ça veut dire que ça va être Jean-Luc Bion, non?
Oui, non.
Mais il n'y a aucune garantie.
Il n'y a aucune garantie, mais il pense qu'il sera parmi les présidentiables, puisque dans tous les cas, il a déjà annoncé qu'il était intéressé par être le candidat du PDCI.
Tout à fait.
Et donc, la seule personne qui peut lui barrer la route, c'est le président Bidier. Donc, il se bat dans ce sens. Mais alors, moi, je voudrais donc dire qu'au RHDP, nous sommes vraiment à l'aise avec ces débats. Parce que ce soit sur la question de l'âge, que ce soit sur la question de la limitation des mandats, nous sommes surpris que ça devienne un sujet de préoccupation. Prenons notre président, le président Alassane Ouattara. Il avait déjà dit qu'il passait la main à une autre génération. Nous, c'était ce funeste coup du sort qui a arraché à notre affection le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président avait déjà décidé de se retirer. Et donc, aujourd'hui, la question, quand elle revient, pour nous, ce n'est pas un problème, puisque le président, déjà, il avait souhaité, donc, passer la main.
Mais aujourd'hui, le discours a un peu changé. Hein. On voit des cadres du RHDP appeler le président Ouattara à être candidat en 2025.
Oui, mais parce qu'en réalité, dès l'instant où aucune disposition de loi ne l'empêche d'être candidat, bon, nous, on n'a pas de problème.
Oui, mais la volonté de passer la main...
Peut-être
qu'en 2025, il n'y aura pas de coup de sort.
Non, mais il n'y a pas de fétichisme, disons, de position. Nous ne disons pas que comme hier, il passe la main, il est obligé de passer la main maintenant. Non, dans le cas de notre parti, nous sommes vraiment totalement libres et indépendants. Et donc, nous pensons que c'est à lui de décider. Parce que nous avons besoin de lui, la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Nous disons qu'il faut qu'il continue. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'être métamorphosée sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la démocratie, avec le dialogue tout azimut qui est fait avec l'opposition, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes embarqués dans une nouvelle dynamique de donner une autre impulsion à la Côte d'Ivoire sous le magistère du président Alassane Ouattara. Alors, sur la question des limitations des mandats,
Ça c'est Coulibalissier de GPS qui en a parlé. Hein. Bon. Non, la question de limitation de mandat.
Convoque celle de limitation des mandats.
Ah bon, mais
voilà. Limitation des mandats.
Mais pour nous, bon, en démocratie, on ne limite pas les mandats. Non, en démocratie.
Je parle des tests des lois.
Oui, parce que.
Si c'est
parce que
dans la loi, il n'y a pas de problème. La démocratie, c'est d'abord le respect des lois. Quand on respecte les lois, moi, je n'ai pas de problème avec.
Oui, ce que je vais donc dire. Il n'y a pas longtemps, ça fait même pas 15 ans que la France a décidé de limiter. Mais ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé avant, ce n'était pas la démocratie. Mm-hmm. Chaque peuple décide en fonction de ses réalités, ou bien de la nécessité, ou bien de l'éthique fait des événements. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura donc une limitation, ou bien une non-limitation, que nous ne serons pas en démocratie. Si c'est moi ou Dieu, on ne limite rien.
D'accord.
Le peuple est suffisamment mature pour décider de qui veut choisir, puisqu'on va à des élections démocratiques.
Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez la parole, je vous la donne en vous demandant, est-ce qu'il faut que le débat se fasse aussi bien au niveau parlementaire qu'au niveau du peuple via un référendum?
Je crois que tout à l'heure, M. Cyril a dit, on a le cas des États-Unis, il y a même d'autres pays encore. Aux États-Unis...
Ce sont d'autres réalités en tout cas.
Oui, mais c'est aussi des preuves, puisque les gens toujours cherchent des preuves. Est-ce que ça existe dans le monde? Le président Joe Biden, il a 81. Et c'est possible même qu'il se représente en 2024. Je crois donc que la question de la limitation de l'âge des candidats, ce n'est pas un débat intéressant. Parce qu'aujourd'hui, vu les enjeux dans le monde, quand vous avez une perle rare, il faut lui demander de vous donner le maximum et le meilleur. Voilà.
Monsieur Coulibalissier, un débat au Parlement, un référendum pour trancher sur la question?
Oui, le pouvoir appartient au peuple. Et donc, si effectivement une partie du peuple s'interroge, il faut des tests clairs. Et si nous sommes tous d'accord que les tests ivoiriens disent qu'il n'y a pas de limitation, moi, pour moi, il faut respecter ces tests. Mais nous voudrons aussi dire que l'apanage, ou du moins, comme il a dit, les perles rares en politique, elles existent pour un temps. Et moi, je veux que notre génération, la nouvelle génération, ait son courage politique de dire à nos devanciers, nos aînés qui nous ont formés, et qui ont beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire, qu'ils peuvent continuer d'apporter en passant la main. Et ça, pour moi, c'est aussi simple, parce que si la question revient même dans tous les camps, je comprends que mes amis du RHDP ne soient pas à l'aise, parce que si le président de la République lui-même applaudit au Sénat, à Yamoussoukro, a dit « j'ai donné la main » et qu'il y a eu le cas de force majeure que nous avons fini tous par accepter, mais je ne pense pas qu'en 2025, il y aura encore un cas de force majeure. Et moi, je connais l'homme, je crois aussi en lui et je suis convaincu qu'il en a les capacités de passer la main. Et je crois que c'est là qu'il sortira.
Mais pourquoi voulez-vous qu'il continue de passer la main
grandi. C'est important.
Au moment où il a fait un nouveau programme.
Oui, monsieur Oudier, écoutez le peuple. Écoutez les voix profondes du peuple. Et je pense que dans les voix profondes du peuple, tout le monde reconnaît ce que Ouattara fait, mais tout le monde en même temps dit il est temps que les trois grands se reposent et qu'on ait notre visage au niveau de la Côte d'Ivoire.
Auriez-vous été capable de brûler le président Fouébouani? Parce qu'en fait, je pense que vous posez
non,
mal le problème.
Vous faites, vous-même, vous faites un amalgame.
Non, je ne fais pas d'amalgame.
Ce que je veux dire, il faut situer les choses dans leur contexte.
Ce que j'avais dit.
Oui, nous sommes dans un contexte
aujourd'hui,
précis.
Aujourd'hui, nous avons un contexte précis. Une vraie limitation. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara fonctionne dans le test. En 2025, en tant que citoyen libre et notre chef, nous pouvons lui demander, et je crois même comme monsieur, quand il a dit, les voix s'élèvent pour lui demander de se présenter. Mais c'est libre à lui de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et je ne peux préjuger de ce qu'il a dit, puisque, effectivement, il avait déjà dit, il avait déjà décidé de passer la main. Et donc, nous sommes en 2023, nous sommes pratiquement au milieu du mandat. Ce n'est pas un débat important pour nous.
Non, le débat est important parce que vous êtes au pouvoir. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper.
Oui, mais
je vous rappelle, monsieur, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper.
Le président Alassane Ouattara n'est pas un homme bavard. Avec tous ces enjeux, enjeux sécuritaires, enjeux mondiaux, avec tout ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas se permettre de parler au hasard en ce qui concerne le choix des gens qui vont présenter. Donc, non.
Reconnaissez que il faut la Côte d'Ivoire existera, Oufou est passé,
oui.
Bédi est passé, Gbagbo est passé, Ouattara passera. Donc, personne n'est indispensable dans le champ politique.
Oui,
chacun vient,
ce n'est pas ce que je dis. Il
apporte sa pierre à l'édification.
Je dis simplement que
nous disons que
pour nous, c'est précipité.
Nous qui aimons Ouattara que vous, nous disons qu'il y a un temps souvent de pouvoir arrêter.
Vous avez un drôle d'amour.
Oui, il y a un temps souvent de pouvoir arrêter et c'est ce temps que nous réclamons et que vous-même vous réclamez. Bon, et peut-être que vous n'avez pas mon courage politique de l'exprimer.
Non, mais c'est que vous me connaissez mal. Un pays comme le Maroc, aujourd'hui, est en train d'aller au vrai développement parce qu'ils ont une stabilité politique.
Compare l'âge du roi et puis celle du président.
Non.
Puisque c'est de ça qu'il s'agit.
Non, ce n'est pas la question de l'âge.
Non,
c'est la question de la stabilité politique.
On peut faire de l'alternance politique en ayant de la stabilité. L'un n'exclut pas l'autre.
Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est
faut
que
pas nous
justement,
dire qu'il n'aura pas la stabilité sans Ouattara.
Non,
Ouattara
personne.
A bien travaillé.
Personne.
Non. Nous sommes d'accord.
Nous disons qu'on peut passer la main.
Mais, et que moi-même je préconise. L'opposition est derrière.
L'opposition fait
il
la.
Il va même mieux guider.
L'opposition veut faire de la dictature. Laissez-moi parler.
Mais vraiment. Allez-y, Monsieur Odier.
Allez-y.
Rapidement pour conclure.
Oui. Alors donc je disais simplement que la question de la limitation de l'âge, pour nous, ce n'est pas un facteur limitant, encore moins un facteur bloquant. Donc, moi, je voudrais donc rassurer notre frère qui dit qu'il aime le président plus que nous. Je le leur concède parce que le degré de perception de l'amour, souvent, c'est dans les actes. Donc, je vous appelle à nous rejoindre, le RHDP. Et je sais que bientôt, le GPS viendra se fondre dans le RHDP pour notre plus grand bonheur et pour la stabilité de notre pays.
Ah, c'est un appel du pied que je constate, mais je veux vous dire que comme c'est pas le sujet, souffrez que je n'en parle pas parce que c'est trop sérieux quand on parle de Guillaume Kibafori-Soro par rapport au GPS. Mais moi, je dis mon rêve que je veux faire en 2025, c'est que la nouvelle génération soit au pouvoir et que la passation se fasse avec un de la nouvelle génération. Que Ouattara, Gbagbo, Bédié soient ces sages-là comme dans un village qui nous permettent d'aller encore plus loin.
Mais ça ne va pas se décréter.
Ça ne va pas se décréter.
Voilà,
c'est pour cela que je vous ai dit que je ne suis pas pour les limitations. Mm-hmm. Mais en même temps, selon le contexte, j'ai dit, quand on est fatigué, on se repose.
Bien, vous suivez Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité commentée cette semaine par Joseph Odier Tchakoré, cadre du RHDP. Et en face de lui, Sié Koulibaly, cadre de GPS, Génération et Peuple Solidaire. Messieurs, je vous propose de nous intéresser à présent aux mesures gouvernementales pour faire baisser le taux d'accident et l'incivisme sur nos routes. Et lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a saisi l'occasion pour dévoiler sa stratégie nationale de sécurité routière. Retour sur les axes majeurs de ce rendez-vous du gouvernement avec Jean-Claude Mabéa.
Face aux nombreux cas d'accidents enregistrés ces temps-ci en Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure en adoptant d'importantes mesures. Le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
L'institution d'une semaine de sécurité routière du 3 au 10 de chaque mois sur le reste de l'année 2023. L'extension de la vidéo-verbalisation aux axes routiers interurbains accidentogènes. L'acquisition supplémentaire d'éthylotests à l'usage des forces de sécurité. Le Conseil a décidé de procéder à une opération spéciale de renforcement de la signalisation routière sur les principales artères du district d'Abidjan et certains axes routiers interurbains majeurs du pays. Le système du permis de conduire à points rentre effectivement en vigueur à partir du 1er mars 2023.
Le Conseil a d'ailleurs pris une ordonnance instituant un juge unique en matière de police de la circulation routière.
Alors, messieurs, votre avis sur l'efficacité de ces batteries de mesures prises par le gouvernement pour sa stratégie nationale de sécurité routière, Koulibaly Sié?
Vous voyez qu'on nous dit toujours la route précède le développement. Mais force est de constater depuis un certain temps en Côte d'Ivoire l'incivisme de nos transporteurs, l'incivisme même des civils au volant fait assez de morts. Et la route aujourd'hui fait plus de morts que certaines maladies comme le Covid. C'est pour cela que nous saluons les actions vigoureuses prises par le ministre et le gouvernement. Mais il faut aller plus loin. Nous sommes tous d'accord sur une chose, il faut travailler sur les valeurs. Qui sont ces gens qui ont ces permis? Vous voyez, même à la Sotra, aujourd'hui, on voit l'incivisme. Avant, on nous disait que quand tu vois un bus de Sotra en train de venir, quand il roule, tu sens qu'il n'y a pas de problème. C'est la question du recrutement et de la qualité des personnes. Qui sont ces gens qui conduisent ces véhicules? Moi, je vous donne un exemple. Récemment, j'ai voyagé en car. Nous, on a attendu quelque part que le car vienne. Et que le même car qui a fait Abidjan la zone retourne avec nous, avec le même chauffeur. Et c'est ce qui se passe. Mais comment voulez-vous qu'un tel chauffeur, quand il arrive à Yamoussoukro, certainement qu'il ne fasse pas un accident, parce que déjà même il traverse la ville à vive allure. Il y a non seulement les transporteurs, mais il y a les compagnies. Je crois que le ministre doit pousser loin. C'est pour cela que dans un premier temps, nous avions apprécié la question de la réforme au niveau du transport. Ou même, ça a commencé par les véhicules et puis les permis. On voit souvent, on est là dans la ville, des jeunes gens qui roulent dans des grosses caisses à des vitesses incroyables. Donc moi, je dis, on se retrouverait à une époque ancienne au campus, pas sous le contrôle d'Odier, l'heure est grave dans ce domaine. Non, l'heure est grave, il faut des mesures. Et c'est pour cela que les caméras qui sont là, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut les multiplier. Parce que quand vous êtes verbalisé, comme c'était mon cas la dernière fois, quand vous arrivez et puis vous descendez, on vous dit que vous n'avez pas porté la simple ceinture, vous devez payer 2000 francs et que vous êtes passé quelque part, la vitesse était trop. Moi, j'ai payé 4000. Mais ça m'a permis, c'est un cas pratique, de prendre conscience que, attention, si je continue, peut-être un jour je risque de payer 100 000, 500 000 ou du moins même ma voiture carrément en fourrière. Il faut des actes forts.
Odier Tchakoré, sur ces mesures prises par le gouvernement.
Oui, il y a une chose qui m'a frappé, c'est l'institution d'une semaine de, disons, une semaine de sensibilisation. Ça veut dire qu'en fait, le gouvernement a bien compris que ce qu'on lui reprochait, c'était d'engager souvent, comme dans le cas des motos. Mmh. Ils avaient commencé à contrôler les pièces. Les rues d'Abidjan étaient bien dégagées, il n'y avait plus personne. Les gens avaient garé leurs vieilles voitures, les voitures sans pièces, sans freins, etc., etc. Nous étions très à l'aise. Et puis bon, après, tout le monde s'est fatigué. Les gens ont repris. Souvent, vous voyez
des opérations ponctuelles.
Des opérations ponctuelles. Donc, l'État a décidé de prendre des mesures parce qu'il faut que, continuellement,
les forces de l'ordre, ceux qui sont détachés à cela, qu'ils soient tout le temps sur la brèche. Parce qu'il faut changer la mentalité des Ivoiriens. Donc il y a la question humaine, mais il y a aussi la question technique avec le renouvellement du parc automobile. Il est aussi engagé une réforme du permis. Donc pour lutter un peu aussi contre les fausses pièces, etc., etc. Là maintenant, on va maintenant dans le permis à points. Tout ça, ça veut dire que le gouvernement a décidé d'aller à fond. Mmh. Mais il faut donc souhaiter que ceux qui sont chargés d'appliquer ces réformes-là aillent jusqu'au bout. Mais surtout qu'ils le fassent sans brimer.
Sans complaisance.
Voilà, c'est ça. Mmh. Merci pour le terme. Sans complaisance. Mmh. Et bien sûr, les populations. Et donc, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement les automobilistes. Il faut aussi que les populations arrêtent de mettre des dodans dans tous les carrefours. Vous prenez la route de l'Est, il n'y a que des dodans. Aujourd'hui, vous prenez la route d'Abouasso, ils ont commencé à mettre des dodans qui ne sont même pas justifiés.
Ça, c'est à l'État, au gouvernement, de prendre ses responsabilités pour détruire les dodans qui ne sont pas justifiés.
Oui, mais donc tout cela, ça entre effectivement en ligne de compte dans tout ce que nous sommes en train de dire. Il faut que l'État aille jusqu'au bout.
Peut-être moi, je voulais vous poser la question sur l'usage du téléphone au volant. Est-ce qu'avec l'ubérisation du transport, ce qu'on appelle communément les Yango, il risque d'avoir des frictions entre forces de l'ordre et chauffeurs Uber, dont le téléphone est, disons, pratiquement l'outil indispensable de travail? Comment ceux-là ils font?
Oui, mais ce qui était décrié, c'était le fait de tenir le téléphone à la main.
Ah, le décret que nous avons lu, parcouru, dit même en utilisant des techniques, le Bluetooth, tout ça, tout est interdit.
Oui, mais c'est quand même étonnant parce que je vous donne un exemple. Aujourd'hui, toutes les voitures que vous avez, pour jouer de la musique, c'est à partir de téléphone. C'est-à-dire que vous mettez le Bluetooth qui communique à votre voiture, vous jouez de la musique. Comment est-ce que le policier qui vous arrête vous dit pourquoi vous jouez de la musique dans la voiture à partir de votre téléphone? C'est-à-dire que soit on éteint carrément le téléphone. Ensuite, deuxièmement, il y a aujourd'hui effectivement l'utilisation du GPS, qui est un instrument très commode, mm-hmm. qui permet de s'orienter. Est-ce que, au nom de la sécurité routière, on empêchera cela? Et donc, ça entre dans le cadre de ce que vous dites, l'ubérisation du transport. Mm-hmm. Je crois qu'il faut peut-être une autre réflexion complémentaire pour que nous ne rejetons pas la technologie.
Tout à fait. Voilà. Koulibalissier, oui, sur la question du téléphone au volant.
Oui, sur la question du téléphone au volant, je crois que c'est cette même question de l'incivisme dont nous parlons qui revient. Et pour moi, il ne faut pas qu'on se limite à la prise d'un décret ou institutionnaliser des journées. La question, c'est le suivi. En Afrique, on a l'habitude de dire que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Et vous voyez, Odier le disait tout à l'heure, il y a eu des semaines ici, tu prends ta voiture sur l'axe Zo, tu as l'impression que tu es le seul en train de rouler. Voilà, parce qu'il y avait un contrôle. Ça veut dire qu'en réalité, personne n'est en règle. Mais il fallait qu'on continue. Comment voulez-vous qu'on puisse diriger un pays sans la moindre coercition? J'ai un problème avec le laisser aller. Mais en même temps aussi, nous disons à notre police, il ne faut pas aussi exagérer. Parce que c'est le revers de la main. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous savons de quoi nous parlons. Donc, moi, je pense que les mesures qui ont été prises...
Mais sur le téléphone au volant,
oui,
ou les transporteurs Yango qui utilisent le téléphone...
Non, eux, ils sont dans un domaine bien précis. Ils sont ciblés.
Donc, pensez qu'ils ne doivent pas être concernés par l'utilisation du téléphone au volant, l'interdiction...
A priori, ils ne sont pas concernés. C'est le même ministère du Transport qui les autorise. Sauf s'il y a une loi qui vient la détruire. Mais évidemment, quand ils sortent du cadre d'une commande, et qu'ils sont au téléphone comme les citoyens lambda, c'est là qu'il y a problème. Sinon, en réalité, pour une commande, on ne peut pas aller faire un accident. Il y a le GPS qui permet aussi aux Yango de s'orienter.
On dit la même chose. Ah. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous.
À ce niveau-là, il faut quand même qu'on puisse faire quelques réglages.
Il faut faire des réglages. C'est non seulement pour le chauffeur des taxis, mais même pour tout citoyen. Pour arriver ici, j'ai utilisé le GPS.
Tout à fait.
Alors, si le chauffeur de Yango, s'il veut parler, il s'arrête. Il gare, il cherche à se mettre sur le côté. Il prend son appel et il continue. Le GPS, il peut l'utiliser, mais ce qui est prohibé, c'est l'appel. Bon. Il y a des corps de métier qui ont certaines prérogatives.
Donc en gros, il faut des réglages.
Il faut des réglages.
Bien, messieurs, nous allons allègrement vers la fin de cette émission, mais je voudrais que vous commentiez brièvement ces deux actualités, mais cette fois sans illustration sonore. Il y a tout d'abord le décès de l'ex-président de l'UDPCI, ancien ministre de l'Éducation nationale de 1971 à 1983, à savoir Paul Akoto Yao. L'avez-vous connu et qu'est-ce que vous retenez de l'homme, Odier Tiakoré?
Oui, moi, je l'ai connu à deux niveaux. Je l'ai connu d'abord sur le plan académique. Mais en étudiant un de ses livres, L'envol des Tisserins, monsieur Paul Akuteyao est un sage qui, à travers ses écrits, su nous donner un certain nombre de pistes à suivre. Je crois que c'est pour ça qu'il a écrit ces livres-là. C'était donc pour guider, pour éclairer la voie, tout ça. Je l'ai connu aussi sur le plan politique, parce que en tant que représentant de l'UDPCI, nous l'avons rencontré dans un cadre, nous disions à l'époque au RDR. Je crois un peu que c'est tout ça qui a permis aujourd'hui que, un peu plus tard, l'UDPCI se soit rapproché du RDR dans le cadre du RHDP. Parce qu'il y a eu des premières approches. C'est un homme modéré, beaucoup modéré. Le courant est très vite passé.
Koulibaly Sié.
Qui ne connaît pas de notre génération Paul Akuteyao, L'envol des Tisserins? J'ai eu la chance quand mon patron Guillaume Soroy était premier ministre. Nous l'avons rencontré sur des questions de l'éducation. C'est une immense bibliothèque. Ce jour-là, c'est ce que j'ai noté. En même temps, tout en présentant mes condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique, nous voudrons dire que la Côte d'Ivoire perd certainement son plus grand ministre de l'éducation, j'en assume entièrement. Parce que sous lui, l'éducation nationale était vraiment au summum. Et je pense que la ministre même actuelle a eu à le rencontrer dans le cadre des réformes de l'éducation.
États généraux de l'éducation.
Des États généraux. Et j'ose croire qu'elle a appris beaucoup. Et pour lui, le fautisme était une pensée. Et c'est un esprit. Ça a été vraiment un homme d'État. Et je souhaite que l'État le lui rende au centime à travers des funérailles dignes de ce nom. Parce que c'est un exemple pour notre génération.
Alors, rapidement, en deux mots, les morts enregistrées sur le campus de Cocody.
C'est du gâchis. Je pourrais m'exprimer avec émotion. Mais la raison m'amène a dit, que se passe-t-il? Hier, sur les réseaux, on nous a même annoncé qu'un élève dans un autobus a tenté de se suicider. Je me suis posé des questions. Pourquoi autant de suicides en Côte d'Ivoire? Il faut que nos sociologues, nos psychologues prennent la question au sérieux et que l'État de Côte d'Ivoire regarde, surtout quand c'est dans le milieu étudiantin. Mais est-ce parce que les conditions de vie au niveau des étudiants sont devenues extrêmement difficiles, mais qu'on ne voit pas de près? Est-ce parce que ce sont les conditions sociales qui sont liées à leur propre famille qui nous amènent à ça? Il nous faut nous interroger dans une société où, je le dis, le buzz prend la place sur la réalité, où les contre-faux modèles sont les plus nombreux sur les réseaux sociaux à la place du vrai vécu.
Tu as couru rapidement?
Oui, c'est vraiment préoccupant parce que deux jeunes étudiants qui décèdent, l'un par noyade, l'autre par pendaison, ça me paraît vraiment, vraiment préoccupant. Moi, je souhaite que la police fasse toute la lumière. On peut se poser sans fin de questions. L'idéal serait donc qu'on fasse une enquête et qu'on nous donne les éléments. Surtout, je n'ai pas vu suffisamment d'émotion sur cette question-là. On n'est pas allé vers les parents, sur leurs sentiments. Et puis, il faut que l'université prenne des mesures pour que ces choses-là ne se répètent plus. On renforce le dispositif sécuritaire et que ce ne soit pas des individus tapis dans l'ombre qui s'en prennent à des étudiants pour des raisons inconnues.
Ça aussi, c'est une autre piste.
Tout à fait.
Bien, c'est la fin de ce numéro de Regard croisé sur l'actualité qui recevait Joseph Odietiakoré, cadre du RHDP, et Sié Koulibaly, cadre du parti GPS Génération et Peuple Solidaire. J'ai bénéficié de la réalisation technique d'Antoine Kouassi. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine.
C'était Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté.